vous allez souffrir. Mais ne vous en faites pas, vos souffrances ne sont en rien en rapport avec la gloire qui va être à venir, lorsqu'on va se retrouver dans la présence de Dieu. Paul a également dit ceci aux croyants de Lystre, d'Icône et d'Antioche, que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et Paul a même démontré aux Corinthiens les difficultés qu'il a rencontrées dans son ministère. 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9, nous lisons « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre ministère que Dieu nous a confié, on va rencontrer des moments difficiles. On va rencontrer des moments, vous savez, où ce que tout nous semble nous échapper. On regarde autour de nous, puis c'est comme si il n'y a rien qui va bien. Je ne peux pas m'accrocher à rien, parce que tout autour de moi va mal. Vous savez, je ne connais pas vos vies personnellement, mais les problèmes sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Vous avez peut-être des difficultés présentement que vous vivez dans votre travail. Peut-être un patron qui est sur votre dos et qui vous demande de travailler beaucoup trop. Peut-être que vous n'avez pas cette sécurité d'emploi. Je pensais ce soir à Jean-Luc qui fréquente votre église, qui avec le conflit qu'il y a eu avec les postes. C'est pas facile de savoir que la paie ne rentre plus. Là. On croit que Dieu va pourvoir, on sait que Dieu va être là. Humainement, c'est quand même difficile. Peut-être que vous n'avez pas cette sécurité d'emploi-là. Peut-être, et c'est mon cas, le travail prend beaucoup trop de place. C'est une vie anormale de travailler 11 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Mes filles m'appellent mon oncle quand je rentre dans la maison. Mais ce n'est pas normal. C'est une vie qui n'est pas logique. Je regarde, c'est le fun de se séparer, hein, les adolescents qui sont tous là, les jeunes adultes. Je ne veux pas dire que c'est moi. Les jeunes adultes qui sont tous là. La difficulté peut-être de vivre avec la pression des amis. Le monde qui est attirant, la sexualité, la boisson, les drogues, les sorties. Ça peut être aussi la tristesse ou les angoisses de savoir, je vais-tu me trouver un travail mais que j'ai fini mon école? Je vais-tu être capable de me placer pour pouvoir subvenir à mes besoins? Les personnes peut-être un petit peu plus âgées, la difficulté de se sentir vieillir, qu'on est moins capable de faire des choses comme avant. M. Francis me disait tantôt que juste avant de s'en venir, il a fait un petit somme, puis que si mon message était ennuyant, ben il pourrait en faire trois quarts d'heure de plus. Mais M. Francis, à 20 ans, il n'avait pas besoin de faire de petit somme, juste avant de venir. J'espère que je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas facile de se sentir vieillir, qu'on a moins de capacité, qu'on est moins capable de faire des choses. On est tous des parents, probablement. Les angoisses avec nos enfants. Ils vont-ils accepter le Seigneur? Mes filles qui ont 10 et 12 ans, qui sont en âge de comprendre, sont en âge de déjà confirmer leur foi, mais ce n'est pas facile. Puis en tant que parent, tu as cette crainte-là de dire, ils vont-ils se tourner vers Dieu? Où ils vont le rejeter. Ma plus vieille qui va rentrer au secondaire, là, je me dis, il me semble qu'elle rentre dans le grand monde. Là. Les problèmes, ils vont être beaucoup plus grands, puis les tentations vont être beaucoup plus grandes. Ça va côtoyer à tous les jours des gens de 17-18 ans qui ont vécu toutes sortes de choses. Ça peut être dans notre vie de couple. Je veux dire, c'est pas toujours parfait avec nos femmes puis nos maris, là. Présentement, c'est correct avec ma femme, là, c'est pas ça que je vis, là, mais je veux dire, il y a des fois qu'on a des petits accrochages, des difficultés. C'est pas toujours parfait. Ça peut être nos vies spirituelles également. Peut-être que présentement, ce soir, on n'est pas satisfait de notre état spirituel, de notre relation avec Dieu. Peut-être qu'on a des péchés dans notre vie qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Des péchés qui nous fatiguent, qu'on n'est pas capable de résister. Vous savez, pour toutes ces raisons-là, j'imagine qu'à quelque part dans votre vie, vous avez déjà ressenti de la douleur, de la tristesse, des angoisses, de la peur, de la solitude, des craintes, des difficultés, des inquiétudes. Puis c'est pas parce qu'on aime moins Dieu, c'est pas parce que Dieu est moins bon pour nous qu'on vit ces choses-là. Ça l'arrive dans nos vies. Ce message ce soir, je veux qu'il soit premièrement pour moi, je vous l'ai dit. Un message d'encouragement puis de réconfort. Mais j'espère qu'en même temps, Dieu pourra m'utiliser si vous ressentez quelque part ce soir quelques-uns de ces sentiments-là, pour X raisons, peut-être même des choses que je n'ai pas nommées. On peut penser à la maladie. Ma femme, ça fait 5 ans qu'elle a des vertiges, puis pas capable de s'en débarrasser. Ça l'empêche même des fois de vivre normalement. Il peut y avoir des gens ce soir qui souffrent en silence, dans leur cœur, sans que personne ne le sache. Mais la parole de Dieu nous donne une solution. Je vous invite tout d'abord à tourner avec moi dans Jean chapitre 16. On va lire les versets 4 à 7. Jean chapitre 16, à partir du verset 4. « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » J'ai trouvé intéressant de voir que les apôtres vivaient également ces moments difficiles. Et pourtant, les apôtres étaient en parfaite communion avec le Seigneur Jésus. Le côtoyaient jour par jour, à tous les jours. À chaque instant de leur vie, le Seigneur Jésus était là avec eux. Mais pourtant, le Seigneur Jésus leur dit au verset 6, « La tristesse a rempli votre cœur. » C'est peut-être votre cas ce soir. Ça a été mon cas cette semaine, d'avoir le cœur rempli de tristesse. Et pourquoi les apôtres avaient le cœur rempli de tristesse? Eh bien, Jésus leur a fait des annonces qui pouvaient les faire frémir. Jésus leur annonce ceci, qu'il va souffrir et qu'il va quitter la terre. Jean 13, 33, 14, 3 à 12 et 12. Jésus leur annonce également qu'ils seront persécutés. Jean 15, versets 19 et 20 et Jean 16, verset 1. Jésus leur annonce également qu'ils mourront. Jean 16, verset 1. Et mon préféré que j'ai mis à la fin, Jésus leur dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Imaginez les apôtres qui entendent ces choses-là. Je vais souffrir, puis je vais quitter la terre, je m'en vais mourir. Puis quand je vais être mort, là, bien, vous serez persécutés. Quelques-uns vont mourir. Puis n'oubliez pas, je m'en vais, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'imagine dire ça à mes filles. Le pays s'en va, là, mais vous n'êtes pas capable de rien faire tout seul. C'est clair que la panique le prend. Là. Puis je comprends les apôtres d'avoir la tristesse dans le cœur. C'est normal. Après toutes ces annonces, ils avaient trouvé le Messie, celui que l'Ancien Testament annonçait. Ils vivaient avec lui jour après jour. Puis là, Jésus leur dit, « Je vais souffrir, je vais quitter la terre, vous allez mourir, vous allez être persécutés. Puis en plus, ne m'échappe pas là, vous êtes capable de rien faire tout seul. » Mais Christ, dans son amour, dans sa compassion, en grec, le terme « tristesse » que les apôtres ressentaient, qui est devant nous, là, c'est l'équivalent d'un deuil. La tristesse de perdre un être cher. C'est comme ça qu'ils se sentaient, les apôtres. Rappelez-vous comment vous étiez lorsque vous avez perdu quelqu'un de proche, qui est décédé. La tristesse dans votre cœur, c'est exactement les sentiments que les apôtres avaient. Mais Christ, dans son amour, sa compassion, sa tendresse pour eux, il leur fait une grande, grande promesse. Et il leur dit au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Faites-vous-en pas. Je m'en vais. Je vais souffrir. Je vais quitter la terre. Vous ne pouvez rien faire sans moi, mais je ne vous laisserai pas seul, parce que je vais vous envoyer le Consolateur. Frères et sœurs, ce soir, si votre cœur est rempli de tristesse, nous pouvons tous et chacun se tourner vers le Consolateur, celui que Jésus a envoyé pour que ses plaies soient bandées, pour que nos douleurs disparaissent. Lorsqu'on parle du Consolateur, c'est évident qu'il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres, après l'ascension de Christ auprès du Père. Il veut les conduire à une plus grande et profonde connaissance de l'Évangile et leur donner surtout de la part du royaume divin une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves et les persécutions. Le Consolateur peut nous donner une force divine pour vaincre les douleurs et les persécutions. Peu importe qu'est-ce qu'elle est. Peu importe qu'est-ce qui remplit votre cœur de tristesse ce soir, le Consolateur peut nous aider. Le terme consolateur qu'on a dans notre Bible vient du grec parakletos, qui veut dire, qui peut être traduit par auprès de, ou littéralement celui qui est appelé auprès de. Le Seigneur Jésus appelle donc le Saint-Esprit pour être auprès de nous. Mon épouse appelle sa maman une fois par jour, minimum. À tous les soirs, ça c'est sûr. Et souvent le matin aussi. Le matin, je suis parti travailler. Le soir, j'étais à la maison. Donc, quand elle s'installe pour faire son téléphone, ben moi, je sors de la pièce, je vais aller dans mon bureau, je vais aller faire d'autres choses. Des fois, elle me demande, elle dit, « Pourquoi tu n'es pas resté à côté de moi? » Ben là, tu veux que je fasse quoi? C'est toi qui parles avec ta mère. Si je ne resterai pas assis sur le divan à rien faire ou à côté de toi, là, puis à t'écouter parler, je vais faire d'autres choses. Elle dit, « Ouais, mais elle dit, j'aimerais ça que tu sois juste là. » Ben là, je dis, « Mets une plante verte à la place, puis ça va faire la job. » Mais elle me disait vraiment que juste le fait que je sois là, tu sais, je ne sers à rien, je ne suis pas utile, je ne fais que remplir le trou vide, mais juste le fait que je sois là. Le Seigneur Jésus a demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il soit auprès de nous. Pas comme une plante verte pour remplir un trou, mais pour être utile pour nous. Il y a plusieurs traductions dans nos Bibles pour remplacer le Saint-Esprit. On va quelquefois parler d'un aide, d'un défenseur, d'un conseiller divin, d'un représentant, d'un soutien, d'un avocat et d'un paraclet, principalement dans la version Jérusalem. Et je l'ai mis en surbrillance parce que je veux vous parler quelques temps, quelques minutes sur ce terme-là, paraclet, qui est utilisé. Il y a quatre aspects qu'on peut donner au paraclet et ça va démontrer l'ampleur que le Saint-Esprit peut avoir dans nos vies. Tout d'abord, lorsqu'on utilise le terme paraclet comme terme légal, ça fait référence à un avocat, à un conseiller qui est appelé à la défense. Frères et sœurs, on a le plus grand avocat qui plaide pour nous auprès du Père. Je suis même convaincu qu'à chaque fois que je me tourne vers cet avocat-là, je vais gagner ma cause. Parce qu'il est le meilleur des avocats. En grec, ce terme-là est également utilisé, mais il désigne le sens d'un défenseur d'une cause. Christ me défend devant Dieu. Et il peut me défendre parce que je suis revêtu de son sang. Les rabbins utilisent également ce terme-là. Il est employé dans le sens d'intercesseur. Romains nous dit que l'Esprit intercède, lance des soupirs parce qu'on ne sait pas quoi demander à Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour nous devant Dieu. On ne connaît pas tous nos besoins, on ne connaît pas ce qui est bon de demander à Dieu, mais l'Esprit, lui, le sait. Et il demande ce qu'il est bon pour nous. Il le demande à Dieu. Et pour les disciples, lorsqu'ils ont entendu ce mot consolateur dans leur tête, à eux, ça leur sonnait paraclet. Ça leur disait, il y a quelqu'un qui va être envoyé pour continuer ton œuvre, pour supplier à nos besoins. Le successeur de Christ va les conseiller, les diriger, les soutenir et les relever. Et le Saint-Esprit peut faire tout ça pour nous. Je vais également m'attarder sur l'expression que Jésus utilise au verset 7. Il dira ceci, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Je ne peux pas comprendre que Jésus dise ça à ses apôtres. C'est une bonne chose pour vous que je m'en aille. Non, non. Parce que tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur, tu es le Messie. Et reste ici. C'est pas bon que tu partes. Il faut que tu restes avec nous. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sans la mort de Christ, la venue du Consolateur est impossible. La mort de Christ, c'est une condition obligatoire pour que le Consolateur puisse venir en nous et sur nous. Par sa mort, Christ a réconcilié l'humanité avec Dieu. Il a pris possession du royaume et ensuite, nous, ces rachetés, nous prendrons également possession du royaume. L'Esprit qu'il a envoyé en nous, il est là pour le glorifier lui-même, pour créer toujours une relation avec le Sauveur. Pourquoi c'est avantageux? Lorsque Jésus était ici-bas sur cette terre, il était limité dans son corps d'homme. Et la seule façon de pouvoir vivre une relation avec lui, c'était d'être dans sa présence physique, puisqu'il était limité physiquement. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on peut tous et chacun, individuellement, vivre une relation avec Dieu, et ceci tous en même temps. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, nous pouvons vivre cette relation-là intime avec Dieu. Avant sa mort, les disciples étaient des hommes faibles, instables et craintifs. Mais après sa mort, après que le Consolateur soit venu, il les a métamorphosés en hommes puissants, fermes et courageux, développant ainsi une communion spirituelle et vivante avec lui. Ils le posséderont pour le glorifier par la puissance de son esprit. Même si au départ, je ne comprenais pas pourquoi Jésus pouvait leur dire « c'est avantageux que je m'en aille », aujourd'hui, je le réalise. C'est vrai que c'était une bonne chose, parce qu'il a permis que tous et chacun, nous puissions avoir l'Esprit à l'intérieur de nous et cette relation-là intime avec lui. Tournez maintenant avec moi dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, et on va lire les versets 16 à 20, les versets 25 à 26. Dans les versets qui sont devant nous, dans ces versets-là, on va retrouver les caractéristiques du Consolateur. On va les regarder une à une, on va prendre du temps pour ça ce soir, pour qu'on réalise tout ce que le Consolateur peut faire pour nous. Jean chapitre 14, et à partir du verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans les versets qu'on a vus, qui étaient devant nous, on a vu plusieurs caractéristiques du Consolateur. On a vu tout d'abord qu'il était un autre Consolateur, qu'il demeure éternellement. Il sera en nous. C'est l'Esprit de vérité. Il ne nous laissera pas orphelins. Vous me verrez. Il est l'Esprit Saint. Il est le monde. Ne peut le recevoir. Toutes ces caractéristiques que l'on va voir avec les quelques minutes qui nous restent doivent être pour nous un réconfort. Doivent être pour nous des encouragements. Dans nos moments difficiles sur lesquels on peut s'appuyer, se tourner vers le Saint-Esprit. La seule source de soulagement. La seule source de réconfort. Je cherche par ces versets à nous donner un moyen de panser nos plaies, de mettre un baume sur nos douleurs et de verser de l'huile sur nos têtes. Quoi que ce soit, frères et sœurs, qui remplit votre cœur de tristesse ce soir, il y a une de ces caractéristiques-là qui peut nous faire du bien. Et le vœu de mon cœur et ma prière à l'Éternel, c'est que ces caractéristiques-là puisse rester avec nous tout au jour de tout le temps de notre vie. Qu'on puisse se tourner vers ces choses-là lorsque ça va mal. Dans les versets 16 et 17, les trois premières caractéristiques que nous retrouvons, le Seigneur Jésus dit ceci, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Un autre Consolateur qui demeure éternellement et qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, « autre Consolateur » que le Seigneur Jésus utilise? En réalité, ce que le Seigneur Jésus demande, c'est un autre soutien. Rappelez-vous quand il vient de dire à ses apôtres, « Je vais vous quitter. Puis sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il demande donc à Dieu un soutien. Il demande donc à Dieu, « Envoie-leur quelqu'un qui va prendre ma place. Envoie-leur quelqu'un pour me remplacer. » Un autre soutien qui sera toujours là pour eux, qui sera toujours à leur portée, qui sera toujours prêt à venir en aide, qui sera toujours à l'écoute, qui sera toujours prêt à combattre pour eux. Ils demandent un soutien dans les moments difficiles, dans nos moments de faiblesse. Ils demandent un soutien pour nous conseiller dans nos difficultés de la vie. Quelle décision je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, Seigneur, parce que je ne sais pas quelle direction prendre. Ils demandent un consolateur, un soutien dans nos moments de souffrance. Quand ça va mal. Quand on ne sait plus vers quoi se tourner. Parce qu'il n'y a rien qui va bien. Jésus demande au Père, envoie-leur un autre consolateur. Parce que moi, je ne serai plus là. J'ai le plan à accomplir que tu as tracé devant moi. Je vais aller te retrouver dans le royaume de Dieu. Envoie-leur un autre consolateur. Ce consolateur-là, il est envoyé sur terre pour faire les mêmes œuvres que Christ et il a les mêmes attributs que Christ. Le consolateur va agir avec compassion, avec bonté, avec amour. Il a les mêmes attributs que Christ et il veut continuer la même œuvre que Christ a déjà commencée en nous. Nous pouvons dire que Jésus était le premier consolateur et que le Saint-Esprit est venu prendre sa place. Pas diminué, pas moindre, mais avec les mêmes attributs que le Seigneur Jésus. Nous lisons ceci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs, vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Mais si le Seigneur Jésus ne demande pas au Père, envoie-leur un autre consolateur, on ne l'aura pas. Une consolation qui est éternelle. C'est d'ailleurs le deuxième point. Le consolateur va demeurer éternellement. Le soutien qu'il peut nous apporter, c'est un aide qui n'est pas là juste pour un peu de temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'aller les aider. Je travaille dans la construction, donc on dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, hein, qui connaît la construction. Présentement, je suis capable d'aller les aider parce que physiquement, je peux le faire, j'ai encore le temps pour le faire. Mais je ne serai pas capable de les aider toute ma vie. Un jour ou l'autre, mon corps, il va me dire, là, c'est assez. Ou ma femme va me dire, c'est assez. Je prévois que ça va être ma femme en premier. Mais je ne peux pas être un aide, puis je ne peux pas être un soutien toute ma vie. Le Seigneur Jésus nous dit que le Consolateur qui nous a envoyé, qu'on va recevoir, qu'on a reçu, il demeure éternellement. Cette aide-là est pour tout le temps. Il n'y a pas d'espace-temps pour l'Esprit. L'aide, elle est éternelle. Il n'y a pas non plus d'altération dans son pouvoir. Le pouvoir du Saint-Esprit est le même en tout temps. Et le fait qu'il est présent à jamais, le fait qu'il est présent éternellement, ça veut dire qu'il est présent aujourd'hui, à jamais et en tout temps. Vous ne rencontrerez jamais un moment où vous ne pourrez pas vous tourner vers le Consolateur. Ça ne sonnera jamais occupé. Il n'y aura jamais de deuxième ligne. Ça ne sera jamais de boîte vocale. Le Consolateur va toujours répondre présent. Et il demeurera en nous éternellement. Ça veut dire que nous pouvons toujours compter sur lui. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit hein, juste à la fin avant d'aller retrouver son Père. Il dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, pour moi, c'est une promesse à laquelle je m'accroche, de savoir que Dieu est là avec moi jusqu'à la fin du monde. Et ça, à tous les jours. Et dernièrement, je lisais également dans Josué. Je me disais, pauvre Josué, hein, qui doit prendre rapidement la place de Moïse, diriger ce peuple-là au cou raide, méchant, qui se tourne si facilement vers l'idolâtrie, les faire rentrer dans la terre promise pour conquérir le pays. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et voici la promesse que l'Éternel fait à Josué. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il n'y a aucune personne qui peut vous affirmer ces choses-là ici-bas sur terre. L'Éternel a pu le faire à Josué. Et le Consolateur nous le dit ce soir. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quel réconfort pour Josué. Il savait qu'il pouvait aller conquérir le pays. Parce que l'Éternel serait avec lui. Troisième caractéristique qu'on a du Consolateur qui doit également nous réconforter. Le Seigneur Jésus dit que le Consolateur sera maintenant en vous, à la fin du verset 17. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Jusqu'à présent, l'aide était avec eux. Mais maintenant, à partir du moment où le Saint-Esprit va venir, il sera en eux. 1 Corinthiens 3, verset 16, nous lisons, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Probablement qu'on aurait aimé vivre au temps de Jésus. J'ai posé cette question-là à ma fille. Elle dit, « Ouais, mais elle dit, avais-tu des téléplasmas et des Xbox dans le temps? » J'ai dit, « Non. » J'ai compris que ses priorités, ce n'était pas les bonnes. Mais on aurait aimé ça, vivre avec Jésus, le côtoyer. Je m'imagine, moi, sur le sermon sur la montagne, écouter ce grand discours-là. J'aurais aimé ça être là. Voir ses miracles. Entendre de ses propres paroles, de sa propre bouche. Mais le fait qu'il vive en nous, nous le côtoyons à tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Le fait qu'il soit en nous nous donne ce même privilège d'avoir cette relation-là avec Dieu. Avoir l'Esprit en nous, c'est l'équivalent de vivre avec Jésus de façon physique. Il y a donc cette présence continuelle. Il s'attache à nous. Il est là pour durer. Il restera le même. Il a fait sa demeure en nous. Il veut vivre à l'intérieur de nous. Nous lisons ceci dans Éphésiens 2, versets 20 et 22. 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je ne sais pas si on réalise le privilège d'avoir Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de nous. Paul a dit aux Galates, « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'était pour sa marche chrétienne de tous les jours. Mais l'Esprit qui est à l'intérieur de nous, le Consolateur qui est là, qui est présent, il est là pour nous aider. Il a fait sa demeure en nous. Quatrième ministère, si vous voulez, du Consolateur, le Seigneur Jésus dit au verset 17, au début du verset, « Il ne l'appellera plus maintenant le Consolateur, mais il lui donnera un autre terme. Il dira que c'est l'Esprit de vérité. » Ici, ce que le Seigneur Jésus souligne, il affirme qu'il est lui-même la vérité. Jean 14, verset 6, on connaît tout ce verset-là, il vient tout juste de l'affirmer. Mais ce qu'il dit maintenant, l'Esprit est donc comme lui. Le Consolateur est cet Esprit de vérité. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais le Consolateur que je vais vous envoyer, c'est l'Esprit de vérité. Il est donc identique à moi. Il est identique à lui en tout point. Il est cet Esprit de vérité. La vérité, elle est communiquée par la parole divine. Lorsque l'Éternel dit à Josué, « Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. » Mais l'Éternel continue à lui parler. Il lui dit, les paroles que Moïse t'a dites, le livre de la loi, garde-le près de toi à tous les jours. Médite-le jour et nuit. Ne te détourne point de ce livre-là. Ça, c'est la version Boisvert, là, j'y vais dans mes mots. L'Esprit de vérité, il est là pour nous diriger, pour nous guider. Quelquefois, on ne sait pas quoi faire de nos vies. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle décision prendre. L'Esprit est à l'intérieur de nous. Peut nous diriger, va nous guider. Cet esprit-là nous met en communion avec Dieu. Elle nous révèle tout ce qu'il est dans sa sainteté et dans son amour. Quel est l'état de votre communion? Quel est l'état de ma communion avec Dieu? Est-ce que notre communion avec Dieu, c'est le dimanche matin, le dimanche soir, dans vos cellules? Nous autres, à Trois-Rivières, on a une réunion dans le mercredi soir. Est-ce qu'elle est là, ma relation avec Dieu? Puis le reste de la semaine, mais je n'ai pas de relation avec Dieu. Vous savez, l'esprit de vérité qui est à l'intérieur de nous, de moi, là, puis de vous, là, elle veut nous pousser à cette relation-là. Elle veut nous amener à développer ce lien-là sincère, serré avec le Seigneur. L'esprit, la vérité qui est à l'intérieur de nous, elle glorifie Christ en nous. Je me posais la question sur ma propre vie. Est-ce que ma vie de tous les jours glorifie le Seigneur? Est-ce que Dieu, lorsqu'il me regarde vivre, est glorifié par mes pensées, mes paroles, mes actions, ce que je regarde à la télévision, ce que j'écoute? Est-ce que Dieu est glorifié par ma manière de vivre? L'esprit de vérité qui est à l'intérieur de moi, la seule chose qu'elle veut, c'est me diriger dans les bons pas, à la bonne place, pour que je puisse glorifier Dieu par ma vie. L'esprit de vérité rétablit ce qui est vrai et ce qui est faux à l'intérieur de nous. Elle sépare ce qui est bien et ce qui est mal. Elle veut nous séparer du péché. Elle veut nous séparer de ce qui n'est pas bien et de ce qui nous éloigne de Dieu. L'esprit, elle dirige, elle nous éclaire et elle nous conduit dans la vérité. On a un verset qu'on connaît tous très bien, le psaume 119, verset 5, nous dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mais malheureusement, quelquefois dans nos vies, dans ma vie, la lumière ne brille pas fort. La lampe est là, mais elle ne brille pas fort, fort. Elle est recouverte par toutes sortes de choses. Elle est recouverte par mon travail, recouvert par mes soucis, recouvert par mon amour des biens matériels, recouvert par mes péchés. Puis la lampe, elle ne peut pas luire, elle ne peut pas briller. Puis le sentier devant moi, il n'est pas éclairé. Mais ça, ce n'est pas à cause de la parole, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de moi. Mais l'esprit de vérité qui est à l'intérieur de moi, qui va demeurer éternellement, veut m'amener dans ce sentier éclairé. Autre caractéristique, celle-ci, on la retrouve au verset 18. Et pour moi, elle me fait vraiment du bien. Le Seigneur Jésus nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Ce n'est pas parce que je suis un orphelin, pas du tout. Mais le terme orphelin que Jésus utilise, ça désigne être privé d'un maître, d'un guide et d'un gardien. Puis malheureusement, je ne suis pas capable de bien diriger ma vie. J'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'un maître, puis j'ai besoin d'un gardien. C'est ce que le Seigneur Jésus me dit. Je ne te laisserai pas orphelin. Tu pourras toujours compter sur moi et je serai toujours là pour toi. Vous savez, le Seigneur Jésus ne veut pas abandonner ceux qu'il vient d'appeler ses petits-enfants. Tournez avec moi à Jean 13, verset 33, on est juste aux côtés. Même tourner, j'ai même pas besoin de tourner. Jean chapitre 13, verset 33, le Seigneur Jésus dit ceci, « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Mes petits-enfants. » Le Seigneur Jésus ne veut pas nous laisser un orphelin. Vous savez, il n'y a jamais personne qui peut affirmer qu'il sera là toujours pour quelqu'un. Même si mes parents essayent de me faire croire qu'ils vont toujours être là pour moi, ben, ils vont mourir. Ma femme ne peut pas m'affirmer qu'elle sera toujours là pour moi. Elle va mourir. Et si je viens vieux et que mes filles sont obligées de s'occuper de moi avant que je devienne sénile, ils ne peuvent même pas me dire qu'ils vont toujours être là pour moi. Ils ne peuvent pas me l'affirmer. Le Seigneur Jésus, lui, peut le faire. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il va agir comme un père pour eux. le meilleur père, qui veut prendre soin de ses enfants. Je ne sais pas ici si vous connaissez le cantique, sûrement. Non, jamais tout seul. J'ai des gens qui disent oui, super. Je vous ferai grâce de ma voix. Parce que c'est clair que vous allez fuir. Mais ce cantique-là est un réconfort pour chacun d'entre nous. Qu'on n'est jamais tout seul. Parce que Dieu nous a dit qu'il ne nous laissera pas un orphelin. L'enfant de Dieu n'est jamais seul face à aucune situation de sa vie. L'Esprit comble le vide de cette solitude. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti seul. Peut-être à l'école, peut-être à votre travail. Une solitude parce que personne ne vous comprend, personne ne peut vous aider. Vous ne savez même pas à qui compter vos problèmes. Dieu nous dit, tu n'es pas seul. Je suis là. Viens vers moi. Le fait que le Seigneur Jésus nous dise également que je ne vous laisserai pas orphelin, que vous n'êtes pas seul, il nous rappelle qu'un jour ou l'autre, il viendra nous chercher. Qu'un jour, il viendra prendre son Église pour l'amener avec lui dans les lieux célestes, pour nous préparer, la place qu'il est en train de nous préparer lorsqu'elle va être complétée. Il va venir nous prendre. On n'est jamais seul. Je vous ai tout dit ces choses-là. Autre caractéristique, jusqu'à une demie, hein, M. Dico? Bien, on m'a dit qu'il n'était pas bon. OK, c'est bon. Un autre des caractéristiques du Consolateur. Le Seigneur Jésus dit ceci au verset 19. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Vous savez, certains croient que l'expression que Jésus utilise ici, « vous me verrez », ça fait référence à la résurrection du Seigneur Jésus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. Le Seigneur Jésus ne peut pas parler ici de sa résurrection parce que ça ne fit pas dans le contexte. Ce que le Seigneur Jésus parle en réalité, c'est la relation avec Dieu. La relation intime et sérieuse qu'on va avoir avec lui. Cette relation-là, elle est démontrée par le verset 20. Regardez le verset 20, ce que le Seigneur Jésus dit. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Il existait une relation vitale entre le Père et le Fils. Et il existe donc cette même relation-là entre Christ et les siens. L'expression « vous me verrez » démontre que nous avons une relation intime et sérieuse avec Dieu. Et que nous pouvons avoir cette certitude-là qui ne nous abandonnera jamais. Autre caractéristique du Consolateur. Verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Au verset 17, on se rappelle, le Seigneur Jésus a dit qu'il était l'Esprit de vérité. Mais ici, il dit du Consolateur qu'il est l'Esprit Saint. Ça fait référence à notre sanctification, à l'éloignement de notre péché. Je ne sais pas pour vous, puis vous êtes peut-être meilleur que moi. Moi, j'ai de la misère à résister au péché. Ma vieille nature, ma chair est attirée par le péché. Vous savez, si le péché ne serait pas le fun, bien, ma vieille nature ne voudrait pas le faire. Malheureusement, le péché est attrayant pour ma chair, ma vieille nature. Puis résister, ce n'est pas toujours facile. Admettre qu'on a des péchés dans notre vie, ce n'est pas évident. Le Seigneur Jésus nous dit que le Consolateur qui habite à l'intérieur de nous, qui ne nous abandonnera pas, qui va toujours être là, avec qui on a une relation, il est là pour nous aider à résister à nos péchés. L'Esprit va combattre pour nous face à nos péchés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que notre combat doit être jusqu'au sang. 12:4, Hébreux 12:4. Luttez jusqu'au sang face à vos péchés. Oui, mais Seigneur, je ne suis pas capable de lutter tout seul. Je ne suis pas capable de résister. J'ai besoin de quelqu'un. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais la lutte. Jusqu'à temps que je réalise que ce n'était pas vrai, mais j'ai écouté la lutte. Puis moi, j'aimais ça quand il y avait des combats en duo. Tu sais, il allait se taper dans la main, puis là, c'est l'autre qui embarquait. Mais moi, j'ai toujours l'impression que je dois aller taper dans la main du Consolateur, de l'Esprit-Saint, pour qu'il aille prendre ma place dans le combat. Parce que tout seul, je ne suis pas capable de le livrer. J'ai besoin de mon partner. J'ai besoin du Consolateur. J'ai besoin de l'Esprit-Saint pour lutter dans le péché. Le but de Dieu et de son Fils est de nous rendre saints, purs et sans tâche. Paul dit aux Romains que Dieu nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire obtenir une sanctification, l'éloignement du péché. Mais nous devons réaliser ce soir, frères et sœurs, que nous ne sommes plus seuls pour lutter et pour dire non aux attraits du monde, pour dire non à notre chair, pour refuser le péché. L'Esprit-Saint en nous est là pour nous aider. Finalement, dernière caractéristique que nous avons au verset 17, j'ai volontairement sauté par-dessus. Le Seigneur Jésus dit ceci, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » L'Esprit, le Consolateur, ce n'est pas tout le monde qui peut le recevoir. On doit réaliser que c'est la plus grande grâce que Dieu peut nous accorder. Après nous avoir accordé le salut, de nous envoyer son Esprit, l'autre Consolateur à l'intérieur de nous, c'est une des plus grandes grâces que Dieu nous a faites. Le monde ne peut le recevoir parce qu'ils ne sont pas ses enfants. J'espère ce soir que c'est notre cas et qu'on est tous les enfants de Dieu. Nous avons tous pu recevoir et bénéficier du Consolateur. Tournons-nous donc vers le Consolateur. Et ça démontre tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Nous lisons ceci dans Jacques, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Jacques 1, verset 17. C'est une grâce excellente et c'est un don parfait que Dieu nous a accordé en nous envoyant le Saint-Esprit, le Consolateur. Je vous laisse avec ces encouragements, frères et sœurs, qui m'ont fait du bien, que j'avais besoin. Peu importe ce que vous vivez, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, dans votre travail, dans votre vie spirituelle, tournons-nous vers le Consolateur. Tournons-nous vers l'autre Consolateur que Jésus a demandé au Père de nous envoyer. Celui qui demeure éternellement, qui habite à l'intérieur de nous. Cet esprit de vérité qui veut me diriger dans les sentiers éclairés, qui ne me laissera jamais orphelin, que je peux voir parce que j'ai une relation avec lui, qui veut m'éloigner du péché et cette grâce que Dieu m'a accordée de mettre son esprit à l'intérieur de moi. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, on veut tout d'abord te remercier et être extrêmement reconnaissant pour la grâce que tu nous as accordée de faire de nous tes enfants. Tu nous as aimés alors qu'on était des ennemis, des impies, éloignés de toi. Tu as accepté de payer le prix, on veut te remercier. Merci de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous ton peuple. Seigneur, chacun d'entre nous, on peut vivre des difficultés, des épreuves, des moments difficiles. Peut-être que quelques-uns ce soir, leur cœur est rempli de tristesse. On veut se placer devant toi, Seigneur, et demander au Consolateur de nous aider. Le seul réconfort, le seul encouragement, le seul bien qu'on peut avoir, on le trouve en toi. Aide-nous, Seigneur, à bénéficier et à vivre notre vie par le Consolateur. Aide-nous par ces encouragements. Sois avec ton peuple ici, au Cap. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs douleurs. Je te demande, Seigneur, de les aider. Je te demande de venir vers eux. Sois pour eux un consolateur. Bande leurs plaies. Enlève leurs souffrances et leurs douleurs. Et si on peut bénéficier de toutes ces choses, ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu nous as aimés et que ta grâce a surabondé sur nous. C'est à ton beau nom qu'on t'en prie. Amen.